cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 10 février 1994.
Comprendre ce que je suis, de comprendre que mon âme. Lui-même. disais, je peux soutenir des raisons pour et contre, mais je ne peux pas affirmer de façon absolue. Parce que la science biologique ne teint pas l'âme. Alors dites-vous bien ça. C'est ça qui est intéressant. La science biologique n'atteint pas l'âme. Autrement, les biologistes qui nient l'âme seraient tous des imbéciles. Il y a des prix Nobel. Qui nient l'âme, ils sont des prix Nobel. Au point de vue scientifique, ils disent des choses intéressantes. Mais au point de vue philosophique, ils se mettent le doigt dans l'œil. Et au fond, c'est tout le monde d'aujourd'hui, hein. L'option scientifique, on explique tout par la science. Eh bien non, on n'explique pas tout par la science. Parce que par la science, vous n'expliquez pas l'âme. Or l'âme, je la constate, moi. Je ne peux pas dire qu'on explique toute ma vie si on ne regarde pas mon âme. Et c'est ça l'important, c'est d'avoir cette évidence-là. Parce que vous pouvez discuter indéfiniment sur l'embryon, donc c'est pas la peine. C'est une perte de temps. C'est intéressant de regarder, mais vous pouvez pas accepter que dans le devenir, vous n'atteignez pas la substance. Que la substance est au-delà du devenir. Le fameux problème du devenir et de l'être. Et que l'être peut très bien exister chez l'embryon dans ce devenir vivant, sans que l'âme soit présente. Est-ce que les fausses couches, c'est tout simplement parce que l'âme n'est pas là? C'est possible, moi je n'en sais rien. Vous voyez, donc là, il faut être très attentif qu'il y a tout un domaine dans lequel il ne faut pas trop s'avancer trop vite. On ne sait pas grand-chose. On décrit, c'est très intéressant, on décrit, mais c'est de la description. Mon âme, je la saisis par moi-même. C'est pas un autre qui me dit « tu as une âme ». Quand un autre me dit « tu as une âme », je dis « mais je le sais, tu sais ». C'est pas toi qui me l'apprends. Mon âme, c'est chacun d'entre nous qui la découvre. On la découvre de l'intérieur, l'âme. Et on doit la découvrir de plus en plus. Dans un monde qui nie de plus en plus l'âme, il faut que nous soyons des témoins de l'âme. Comment sommes-nous des témoins de notre âme? Par notre pensée, par notre capacité d'aimer. Celui qui explique l'amour d'amitié par la chimie, c'est un imbécile. Parce qu'il n'a jamais aimé. Vouloir expliquer l'amour par la chimie, non. Ou par un bon verre de vin, non. C'est évident que un bon verre de vin peut-être permet à quelqu'un de te regarder l'odeur. Oh, comme tu es beau. Je t'avais jamais vu si beau, oui. Je vois ton aura. C'est merveilleux. Tu as une âme étonnante. Il ne voit pas du tout l'âme, il la projette. Mais ce qui est important, c'est de connaître que nous avons une âme. Et ça, c'est une connaissance personnelle. Que chacun d'entre nous, nous devons découvrir. Et toute la philosophie de Platon et d'Aristote sont faites pour connaître l'âme. Et au-delà de l'âme, ou dans l'âme, à la fois dedans et au-delà, connaître la personne, je suis. Je passe de la vie à l'être. Mais génétiquement, c'est toujours ce point de vue du devenir. Vous voyez, alors, il faut bien, je crois, comprendre que le devenir et l'être sont toujours impliqués dedans. Et quand il s'agit du vivant, le devenir implique une certaine immanence au-delà du devenir qui est extérieur. C'est la conscience. matière. Je suis une personne quand je suis victorieux de la matière. Et que j'arrive à dominer mon corps. En partie. Parce qu'au moment où je crois le dominer, une maladie. Je ne domine pas la maladie. Je suis dominé par la maladie. Et à un moment donné, la maladie est tellement forte qu'elle me domine complètement. Mais mon âme est toujours là. Mon âme n'est pas la domination de la matière. C'est un effet. Mon âme est source d'intériorité. Source de connaissance et d'amour. Et c'est ça qui m'intéresse. Et la personne porte l'individu. Alors l'individu, très bien, mais l'individu, ça reste toujours assez obscur. Hein. C'est par votre personne que vous découvrez l'individu. C'est pas l'individu que vous faites découvrir votre personne. C'est vrai, c'est par votre personne que vous découvrez l'individu. Vous voyez que dans ma personne humaine, il y a un corps. Et mon corps m'individualise. C'est par mon corps que je suis individualisé. Alors, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a tout à fait au début de cette individuation, la ratio individuationis, le principe d'individuation, ce qui est premier. Je dis quantité, matière, quantité. Et la quantité existe toujours avec une figura. Et j'essaie de préciser ce que c'est que cette quantité, cette figura. Et là, le savant me dit des choses intéressantes dans sa description. Mais je donne à la description du savant toute sa signification quand j'ai compris que l'homme était âme et corps. Le savant qui ne veut pas regarder là parce qu'il ne la connaît pas, qu'il ne l'a pas atteint. Et le savant ne parle que de ce qu'il la connaît, de ce qu'il a analysé. Est-ce qu'il connaît l'individu ? Non. Je ne connais parfaitement l'individu que quand je vois l'individu. Il est fait pour quoi l'individu ? Mais pour une personne. Si votre gloire c'est d'être un individu, ça ne va pas très loin. Votre gloire c'est d'être une personne. Une personne victorieuse de votre individuation. Ça va très loin, vous savez ça. Ça fait tout de suite comprendre les deux conceptions de l'art. L'art, je glorifie mon individuation. Il y a des artistes qui glorifient leur individuation. Ils cherchent l'originalité. Ils sont distincts des autres. On n'a jamais fait un dessin comme celui-là. Mais regardez le gosse. Il fait un dessin original. Tandis qu'au contraire, le génie ne cherche pas l'originalité. Il cherche à exprimer quelque chose. À exprimer ce qu'il est. À exprimer ce que le monde est. Vous voyez, l'art est merveilleux pour ça, parce qu'il est une projection du point de vue de l'individuation et de la personne. Et de la personne et de l'individuation. Et ce serait une manière, je crois, très élégante de discerner les orientations artistiques. Il y a des artistes qui sont de purs individus. Il y a des artistes qui sont des personnes. Et la personne assume l'individu. Tandis qu'il y a des cas où c'est l'individu qui enfouit la personne. Alors là, vous voyez, c'est intéressant au point de vue philosophique de voir toutes les répercussions de ce problème de la substance subsiste en étant individuée. Voilà. Et ça, c'est quoi ? Et cette individuation, elle se fait dans un devenir. Elle se fait dans un devenir, cette individuation. Ma personne, à cause de mon individuation, elle aussi progresse avec son devenir. Il y a tout un devenir. Je suis de plus en plus une personne. Jusqu'au moment où j'aurai atteint mon acmé. m'intéresse au point de vue philosophique. Les détails, comme dans la science, c'est très intéressant, mais ça ne me donne aucun principe. Rien du tout. C'est descriptif. Donc c'est pas ça qui va me faire comprendre ce qu'est l'individu. Qui fait sa philosophie quand il est capable de penser. Et la philosophie est avant tout une connaissance, une sagesse. Et elle voit cette complexité extraordinaire et merveilleuse de l'homme. Et cette complexité, il la voit dans l'état premier moment de la conception. Mais le moment de la conception, c'est le moment le moins intelligible de toute ma vie. Est-ce qu'il y a une âme à ce moment-là? Est-ce qu'il n'y a pas d'âme? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ce petit individu est tout entier ordonné à devenir une personne. Tout entier. Il est fait pour ça. Parce que le devenir n'a de sens que par rapport à l'être. Alors, lorsqu'il s'agit de l'homme, le devenir et l'être, dans ce vivant très parfait, et c'est très important et très intéressant, de voir cette conquête de mon âme par rapport à toute ma vie biologique. Je ne peux pas mettre ma vie biologique égale mon âme. Non, pas du tout. Ma vie biologique, c'est mon individuation assumée par mon âme et qui fait que ce devenir, que toute cette vie biologique m'intéresse. C'est ma vie biologique. Et ma personne ne peut pas l'abandonner. Je ne peux pas. Si j'ai trop mal à l'estomac, si j'ai trop mal à la rate, si j'ai trop mal à ma peau, si j'ai un cancer et que je suis entièrement pris par cette individuation complètement à côté, c'est ça le cancer. C'est une individuation qui se révolte contre la personne. C'est un combat terrible. Et c'est le combat de notre monde d'aujourd'hui. Quand on ne voit que le point de vue économique, vous ne voyez que le devenir. Et vous établissez le monde au point de vue du devenir sans regarder l'âme. Et ce devenir vient tellement lourd que l'âme est comme appesantie. Et les gens ne pensent plus. Ils sont téléguidés. Et il n'y a plus de vie, puisque être téléguidé, c'est être conclu par l'extérieur. Et je peux très bien dire que le cancer d'aujourd'hui est le signe de l'état dans lequel nous sommes. Cet état anarchique où l'individu n'est plus assumé par la personne. L'économie d'aujourd'hui n'est plus assumée par la personne. Il y a un rythme de l'économie qui s'impose à la personne et tout le monde court par derrière. Il faut essayer de comprendre là le point de vue philosophique qui est si intéressant. C'est évident que c'est extraordinairement intéressant de voir le lien entre individu et personne. C'est capital de voir ça. Oui. Donc il y a un problème de l'individuation qui est capital. Mais comprenez bien que ce n'est pas en regardant indéfiniment l'embryon que vous allez comprendre. Ça nous intéresse parce que c'est descriptif, mais ça ne vous rien de plus, puisque vous ne savez même pas le moment où il y a le passage de la disposition à la propriété. Alors, après ce grand découverte de la substance, qu'on pousse jusqu'au bout, le passage du tiesti au pos. Comprenez bien ça. Le passage du tiesti découvre la substance comme source, comme principe de toutes les déterminations. philosophie à partir de mon expérience actuelle, pas de l'expérience que j'avais dans le sein maternel, parce que ça s'est reconstruit, tout ça c'est du reconstruit, et le reconstruit est artificiel, c'est pas la réalité. C'est pour ça que vous ne pouvez pas commencer la philosophie par ce qui est reconstruit. Et voyez, c'est là la très grosse difficulté. Quand vous êtes pris par le point de vue de la science, vous reconstruisez tout le temps, tout le temps. Et vous n'arrivez pas à avoir une méta-science. Jamais. Pour entrer dans la philosophie, il faut une nouvelle expérience. L'expérience de l'homme philosophe. C'est pas l'embryon philosophe, non. Et ne dis pas à sa mère, j'ai habité suffisamment de temps chez toi, maintenant je veux la sainte liberté. Et dès qu'il naît, il dit, je suis dans la sainte liberté, attends-toi encore un tout petit peu, mais je vais me libérer de plus en plus. C'est vrai. Partie des prédicaments. effort extraordinaire vers la stabilité. Et plus je vieillis, plus j'aime la stabilité. Hein, ça, c'est le langage de la substance. Elle ne vieillit jamais, mais comme elle est toujours accompagnée du venir, elle peut regarder ce devenir qui vieillit. C'est mon devenir qui vieillit, c'est pas mon être. Alors qu'est-ce qu'il y a de caractéristique à la personne? C'est que la personne humaine est capable de se relier à une autre personne. C'est bien ça. L'épanouissement le plus net de ma personne dans l'ordre des déterminations. Je pourrais dire, alors là, c'est ça qui est très particulier, je pourrais dire, ah, attention, c'est un épanouissement secondaire, ce n'est pas l'épanouissement propre de la personne, de la substance, comme telle. C'est vrai. Et là, je regarderai l'épanouissement de l'être. Ici, je regarde quel est l'épanouissement de la personne dans mon individuation. L'épanouissement de la personne dans son être, nous y reviendrons. Ce sera tout le problème. Alors pourquoi ça ? l'absence. Et au fond, pratiquement, il n'y a plus que Dieu. On tombe dans un panthéisme absolu. J'existe, mais en réalité, la substance, ma substance et la substance de Dieu ne font qu'un. Mon être, il vient de Dieu et il est l'être même de Dieu. Et toute ma vie consiste à intérioriser, à redécouvrir le présent en moi et à dire je suis Dieu. Vous voyez comme il y a un parallélisme avec Hegel, mais très différent. Pour Spinoza, c'est la substance qui prend tout. Et je suis résorbé en Dieu. Il n'y a plus d'accident. Il n'y a que la substance. J'ai dit non, les accidents existent. Les accidents existent et ils ont leur signification propre. Et les accidents existent grâce à la substance. C'est par la substance qu'ils existent. Mais ils ont leur originalité propre. La quantité n'est pas la substance, n'est pas la matière, mais elle est liée à la matière. La qualité, elle peut être purement spirituelle, elle peut être matérielle. Et donc, la qualité va unir individu et personne. Il y a des qualités individuelles. J'ai des cheveux roux. J'ai une barbe fleurissante. La barbe d'arbre. Et l'huile coule sur la barbe d'arbre. C'est tout à fait individuel, ça. Et puis, il y a des qualités personnelles. L'intelligence et la volonté. Et puis, il y a cet accident particulier qui est la relation. Est-ce que ce n'est pas la relation qui est l'accident qui montre le mieux la victoire de la personne sur l'individu? Je suis capable d'entrer en relation avec un être qui n'est pas moi. Ça, c'est la victoire de l'esprit sur la matière. La matière, elle est terriblement individualiste. La matière, elle veut tout ramener à l'individu matériel. Elle est possessive, la matière. La relation, elle est liée à la personne capable de s'ouvrir à un autre, d'être tout entier relative à un autre. Est-ce que ce n'est pas dans la relation que je découvre le mieux la victoire de l'esprit sur l'individu qui se replie sur lui-même en tant qu'individu? La matière qui se replie sur elle-même. La relation, toute voile dehors. Je regarde l'autre. C'est le face à face. Je ne me regarde plus seul. Je me regarde dans l'autre. Et je suis pour l'autre. Oui, comme c'est curieux de voir que la substance, qui est source immanente de mon être, de ma vie, va être source de la relation. Est-ce que je ne saisis pas par là quelque chose de tout à fait particulier? Je ne regarde que la substance, je regarde l'immanence de l'être. substance. Donc, je subsiste pour moi. Tandis que la relation, je suis tout entier tourné vers un autre. J'existe tourné vers l'autre. Je suis pour l'autre. Vous voyez, les modernes, Sartre, divisent l'être en soi et pour soi. C'est intéressant. Comment puis-je, dans une philosophie réaliste, comprendre l'en soi et pour soi? C'est pas Sartre qui l'a inventé, hein, c'est pas Sartre, mais Sartre l'a exploité, ça, l'en soi et pour soi. Pour nous, en philosophie réaliste, nous avons substance, relation. Je peux pas nier que la relation existe. Qu'est-ce que c'est que l'amitié? C'est peux m'entraîner autre part. Ah, tu es là, viens vite, vite. Puis je cours derrière. Et mon beefsteak, il reste là. L'égocentrisme de la vie végétative, qui me fait très bien comprendre le caractère substantiel et individuel de mon être. Voilà que subitement, je suis capable de m'ouvrir à un autre et d'être tout entier à lui. Et je ne dis pas du tout que c'est extérieur à mon être, c'est le dépassement complet de mon immanence. Oui, Spinoza n'a pas compris ça. Il n'a pas compris que j'existe
la relation
elle n'existe parfaitement que grâce à l'esprit. Mais l'esprit, il existe aussi. Il est. Donc, je vois que lorsque je découvre dans l'analyse métaphysique la substance, il ne faut surtout pas oublier que la substance est source de relation. Et que si cette substance est spirituelle, mon âme, la relation prendra alors une dimension énorme. Et pour certaines personnes, il y a un oubli total de ce qu'elles sont pour être tout entier tourné vers les autres. Il y a des gens qui ne vivent que de relations. Je ne pense pas du tout à l'autre,